Bonsoir à chacun, à chacune. Quelle grâce de nous retrouver dans ce monde difficile, dans un lieu où nous pouvons eh bien, réaliser que sa grâce est là, sa bonté est là, son pardon est là, et puis son désir à Dieu de nous voir faire des progrès. Est-ce que c'est un besoin pour vous de faire des progrès? Vous êtes là pour faire des progrès? Tiens donc, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venu? C'est une question qu'on peut poser. Est-ce que c'est une bonne question? Pourquoi vous ne savez pas quoi faire? Non? Ou est-ce que non, j'ai envie de progresser avec Dieu, je veux connaître davantage le Seigneur? Dieu le voit en tous les cas. S'il y a ce désir, c'est très bon signe. Si vous dites, moi, je ne suis pas satisfait de moi, même si ça va, je veux connaître davantage le Seigneur, je veux connaître davantage sa parole, je veux mieux le servir, je sais qu'un jour je vais passer devant lui, donc je veux que ça se passe bien. Vous voulez que ça se passe bien pour le jour où ça se passera devant lui? Bon, alors on va lire ensemble, on va poursuivre un peu ce qu'on a vu dimanche, puisque dimanche nous avons entrepris une question, on va lire dans Hébreux, puisque vous cherchez, Hébreux chapitre 10, verset 35. Nous avons dimanche abordé ce verset, cette question que Jésus pose après avoir fait une promesse extraordinaire. Il pose une question après tout. Après avoir fait une promesse des plus grandes, il dit, mais voilà, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, cette foi, est-ce qu'elle est dans votre cœur? Vous allez me dire, oui, mais moi je crois. Alors, est-ce que parce qu'on croit, on a une foi vivante? Mais non, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui croient, qui prient, qui lisent, qui vont à la Bible, qui servent Dieu, qui prêchent même, etc. Mais ils n'ont pas la foi. Ça paraît paradoxal, mais laissez-moi vous dire qu'on peut tout faire dans une église, on peut tout faire pour Dieu sans avoir une véritable foi, juste un peu de croyance. Alors dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, et au verset 35, le Seigneur nous adresse quelques instructions de plus. On va lire donc ces instructions. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Comme quoi, voyez, si on restait sur ce verset, on pourrait y rester, croyez-moi. On peut abandonner son assurance. Ailleurs, il est dit que dans les dents de la fin, ils abandonneront la foi. Pourquoi on abandonne quelque chose? Là, il faut y penser. N'abandonnez pas votre assurance. Ça vous est déjà arrivé de ne pas payer l'assurance? Je n'ai pas payé l'assurance de la bagnole. Ça fait un mois que je ne suis pas couvert. Je peux vous dire que il y en a qui savent. Ça vous est jamais arrivé, ça? Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Ici, même une fois, l'assurance, je crois d'aucun truc. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas couvert l'église pendant un mois. Là, j'avais honte parce que je me suis dit, quand même, c'est pour l'église. Mais vous voyez, de suite, allô, vite. Bon, la femme a dit, c'est pas grave, on vous couvre quand même, on vous connaît, ça fait 40 ans qu'on est assuré. Bon, mais vous voyez, comme dans certaines choses, on est soucieux. Et pourtant, la Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance. Il y a déjà, ils abandonnent leur assurance. Il y en a qui vont abandonner leur foi. Pourquoi quelqu'un abandonne-t-il son assurance? Pourquoi quelqu'un peut-il abandonner sa foi? Vous abandonnez quoi, vous? Est-ce que ça vous est arrivé de jeter une chemise? Pourquoi vous avez jeté un vêtement? Pourquoi vous avez jeté un vieux meuble? Pourquoi vous l'avez jeté? Je n'entends pas. Oui, parce qu'il est usé, parce que ça ne sert plus à rien. Et quand les... Parce que, non mais il faut réfléchir. Quand les gens abandonnent leur assurance, on peut se demander quel genre d'assurance ils avaient. Quel genre de foi ils avaient. Parce que laissez-moi vous dire que quand vous avez une véritable foi, une véritable assurance, vous n'avez pas envie de vous en séparer. Bon, c'était juste pour... Puis on va aller un peu plus loin quand même. Hébreux chapitre 10, verset 34. À laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. J'en ai parlé dimanche, je ne vais pas y revenir, mais c'est quand même important d'aider les chrétiens à réaliser qu'il faut qu'ils vivent par leur foi. C'est bien la foi des autres. C'est merveilleux quand quelqu'un a la foi, non? C'est bien? C'est bien quand quelqu'un a une parole de Dieu qui vous fait du bien, qui vous encourage, qui vous fortifie. Mais il le faut, la Bible nous enseigne à cela, exhortez-vous les uns les autres, etc. Mais quand même, il faut avoir sa propre foi. C'est biblique. Édifiez-vous, vous-même, sur votre très sainte foi. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Car par la foi, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Je vous encourage bien sûr à lire le chapitre en entier, car il y a tous les caractères de la foi. Alors, la question que j'ai posée dimanche, que c'est Dieu qui la pose, trouvera-t-il la foi, est une question qui doit vous interpeller, parce que si vous voulez être fidèle jusqu'à la fin, il vous faut avoir la foi jusqu'à la fin. Des séminaires sur la foi. Je sais, vous allez parfois sur Internet regarder tout ce qui se passe au niveau religieux. Est-ce que ça vous arrive? Non? Bon, c'est pas important. Hein. C'est pas grave si vous y allez pas. C'est inimaginable sur la Terre le nombre de séminaires qu'il y a sur la foi. Le nombre de livres qu'il y a sur la foi. Et je peux vous dire, même au milieu de nous, il y a des livres qui sortent, je peux vous dire que c'est pas bon. Des milliers de gens font des milliers de kilomètres dès qu'ils ont une église de foi. Ah, il y a une nouvelle église de foi. Je vais y aller. Il y a des églises de foi. Je ne sais pas si vous avez regardé. Des enseignants de foi. Mais ce qui se passe beaucoup, c'est que souvent, la foi, ça ramène aux choses matérielles. Aux choses matérielles. Voilà, les intérêts personnels, il faut faire des expériences, voilà, tu sais, si tu manques de ça, Dieu va pourvoir, et c'est vrai que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Vous croyez que Dieu peut donner du travail à quelqu'un? Tout à l'heure, je discutais avec un nouveau frère qui s'appelle Gabriel, et il me disait qu'il avait besoin qu'on prie pour son travail. Est-ce que vous croyez que Dieu peut pourvoir un travail? Ben bien sûr, c'est évident. Mais la foi, c'est pas que les expériences matérielles. La foi, c'est pas entendre si vous rêvez. Il y en a des séminaires comme ça. Ce que vous rêvez, si vous savez rêver, voilà, je cherchais l'expression. Si vous savez rêver, vous obtiendrez. Laissez-moi vous dire qu'en ce moment, ça circule et ça plaît aux gens. En plus, ils prennent des versets bibliques en dehors des contextes. Vous savez, quand il est dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, il y a une conjonction « or ». Et il faut lire tout ce qui précède pour comprendre que Dieu ne va pas donner des choses comme ça n'importe comment. Donc, voilà, rêvez ce que vous rêvez, vous l'aurez. Mais le problème, c'est que ces gens, ils finissent par devenir rétrogrades parce qu'ils ont demandé des choses, ils ont demandé n'importe quoi. Après, ils sont troublés. Alors, ils font des kilomètres pour aller à tous ces séminaires de foi. Et dès qu'il y a un scientifique à la télévision qui remet en question la parole de Dieu, ah, il y a des savants et des scientifiques qui ont dit que la Terre, eh bien, elle avait des milliards et des milliards d'années parce qu'on a découvert des stalagmites de 120 mètres. Et comme ils ont calculé qu'une stalagmite, ça pousse d'un centimètre par siècle, il fallait, avec leur calculette, là, ils ont tout compris. Alors il y a des chrétiens, voilà, ils remettent tout en question parce que les savants et les scientifiques ont expliqué que la Terre avait des dizaines de milliards d'années parce que pour les stalagmites c'était comme ça. Mais je vais quand même vous poser une question parce que je repense à ce que je vous disais tout à l'heure avant le jeûne et prière. Vous croyez que quand Dieu a créé la Terre, c'était une grosse affaire pour Dieu de créer des cavernes? Et des grottes humides avec des stalactites de 110 mètres de hauteur. Sérieusement, vous croyez que Dieu pouvait créer des séquoias de 80 mètres de haut? Est-ce que c'est possible? Mais non, mais franchement, je disais tout à l'heure, je prenais ce verset, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu veut que nous ayons une foi, mais une véritable foi, pas une foi qui est basée que sur les expériences, une foi qui n'est basée que sur le matériel, une foi qui est basée sur ce que Dieu dit. Un chrétien véritable, c'est un chrétien sa foi, elle est basée sur ce que Dieu dit. Il vous faut bien lire l'Épître aux Hébreux, la 11e chapitre, et vous verrez que chaque fois, la foi était le résultat de la communion avec Dieu. Des hommes qui soupiraient, ou des femmes, qui soupiraient après la présence de Dieu. Je donne un exemple juste pour commencer cette petite exhortation. Vous avez vu les Hébreux dans le désert. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Hébreux dans le désert? Aidez-moi parce que je... Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils murmuraient. Oui, chuchotaient. J'avais entendu, mais c'était un peu faible. Ils ne faisaient pas que chuchoter. Ils murmuraient. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore? Ils se plaignaient. Et pourtant, ils n'en avaient pas fait des expériences. Voir la mer rouge s'ouvrir, ben c'est quand même... C'est pas être guéri d'une grippe, ça, je veux dire. Voir la mer rouge s'ouvrir, c'est quand même... Bon, c'était quand même costaud comme truc. Et ils doutaient. Bon, on ne va pas s'arrêter là. Prenons l'exemple de David dans le désert. David aussi était dans le désert. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, dans le désert? Les frères, David dans le désert, il cherchait Dieu. Vous l'avez vu? Il est dans le désert, il cherche Dieu. Regardez avec moi dans le psaume 63, regardez le psaume. Mais c'est important. C'est important pour comprendre ce qu'est vraiment la foi. Il y a des gens, dès qu'ils sont dans un problème, où ils abandonnent tout, où ils recherchent que le matériel. David, il est dans... Parce que David, est-ce qu'il a fait des erreurs, David? Est-ce qu'il a fait de grosses erreurs? Est-ce qu'il a fait de très grosses erreurs? Bon, est-ce qu'il a fait de gros péchés? Est-ce qu'il s'en est remis? Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Il y en a qui ont fait des erreurs beaucoup moins graves, des péchés beaucoup moins graves, et qui s'en sont jamais remis parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais voyez l'exemple que je viens de vous citer, à savoir les Hébreux dans le désert, ils ne connaissaient pas Dieu, ils avaient fait des expériences, ils pouvaient dire à leurs enfants, à leurs petits-enfants, oh, si tu savais ce qu'on a fait, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Dans le désert, psaume 62, 63, lorsqu'il était dans le désert de Juda, on s'est vite fait de le lire ça. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Et vous lirez tout le psaume, c'est un homme qui dans le désert, il a envie d'une chose, de la communion avec le Seigneur. Je ne sais pas où vous êtes ce soir. Est-ce que vous êtes dans le désert? Est-ce que ça peut arriver d'être dans le désert? Qui a déjà été dans le désert? Alors dans le désert, on peut y rester 15 jours, on peut y rester 40 ans. Bon, c'est bien quand on peut écourter le séjour. Mais je peux vous dire que le désert, on peut s'y mettre soi-même et y rester soi-même. Et il y a des comportements spirituels. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, avant ce moment de partage, pendant la prière, parce que ce verset est venu sur mon cœur cet après-midi, quand l'ange Gabriel dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez ? Bon, mais ça, c'est sûr que n'importe quel chrétien, n'importe quel païen peut réciter ce verset par cœur, mais par tête, mais l'avoir dans le cœur, c'est autre chose. Et la foi, c'est quelque chose qui doit être pratique, non pas par rapport aux choses matérielles, non pas par rapport à des circonstances, à des expériences, mais par rapport à une véritable communion avec Dieu. Alors, on va voir juste quelques exemples. Il nous est parlé d'Abel. Bon, on prend l'exemple d'Abel. Vous connaissez l'histoire d'Abel et de Caïn? Vous l'avez lu, l'histoire? Vous la connaissez un peu? Il nous est dit dans ce texte, donc c'est le premier cas qui nous est donné parce que c'est chronologique. Il nous est dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc, les deux frères font un sacrifice, un offre un agneau, un sacrifice, et l'autre cultive la terre, c'est du boulot les légumes. C'est du travail, faire un sacrifice. Croyez-moi, le plus facile, c'était l'agneau. Hein. Et parce que les légumes, c'est du boulot, les légumes, même s'il y avait moins de pollution, certainement. En tous les cas, une chose est sûre, Dieu a apprécié le sacrifice d'Abel et il a désapprouvé le sacrifice de Caïn. Pourquoi? Pourquoi Dieu a désapprouvé le sacrifice de Caïn? Ils ont fait tous les deux un sacrifice pour le Seigneur, ils avaient tous les deux les mêmes parents, ils avaient tous les mêmes expériences, et quand on voit ce que Dieu dit du sacrifice de Caïn, malheur aux hommes qui ont suivi la voie de Caïn. Pourquoi? Parce que la voie de Caïn, c'est le sacrifice par les œuvres, c'est le salut par les œuvres. Et il est répandu dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, de croyants, qui pensent qu'ils seront sauvés par les œuvres. La Bible est catégorique. Malheur aux hommes qui ont suivi la voie de Caïn. Le sacrifice d'Abel, il représente la foi dans le sang de Jésus-Christ. parce que c'est dans la foi, dans le sacrifice. Abel, pour offrir un sacrifice, pour offrir un agneau, est-ce qu'il a dû bâtir un autel? Oui, bien sûr que oui. Voyez, et il y a eu cette grève. Vous regarderez dans le Lévitique. Je sais que le Lévitique, ce n'est pas le livre préféré des chrétiens. C'est votre livre préféré? Non? Vous lisez toujours dans le Lévitique? Allez, dites-moi. C'est vrai que c'est un livre, et pourtant c'est tout un livre sur la sainteté. C'est un livre, moi je suis en train de le relire, de réapprendre. C'est extraordinaire. C'est un vrai joyau, le livre des... Mais enfin, vous regarderez dans Lévitique chapitre 3 pour comprendre ce que je vous dis ce soir, et vous verrez que la graisse des sacrifices était offerte à un agréable odeur à l'Éternel. Et là aussi, c'est l'image de la prière qui monte vers Dieu, parce que cette graisse qui monte en odeur agréable à l'Éternel est l'image du chrétien qui aujourd'hui aime la prière. Est-ce que vous aimez la prière? Tout à l'heure, quelqu'un me disait, moi, pendant des années, je venais à l'église et je n'ai pas prié. Vous voyez? Il y a des gens, vous voyez, c'est, alors c'est bien parce que cette personne se ressaisit, mais ça vous montre qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne recherchent pas la communion. Est-ce que vous réalisez ce qu'est vraiment la communion avec le Seigneur? Tous les héros de la foi, tous les héros de la foi qui sont cités, qui ont une explication, c'est des gens qui aimaient la communion avec le Seigneur. Alors comment Abel a-t-il eu cette foi? Pourquoi Caïn n'a-t-il pas eu la même foi? Parce que comment il a eu sa foi? Comment ils l'ont eu? Est-ce qu'ils ont entendu ses parents parler? Est-ce que ses parents parlaient, leurs parents, Adam et Ève? Est-ce qu'Adam et Ève, des fois, ils devaient parler quand il buvait un jus de citron sur la terrasse de la maison? Et il devait parler, il devait peut-être dire, tu te souviens? Alors vous allez me dire, ça y est, je suis parti dans les petits films. Mais ça fait rien, ça fait rien. Ça fait rien, ça tient debout ce que je vais vous dire. Tu te souviens quand on parlait dans le jardin avec le Seigneur? Est-ce qu'ils ont parlé? Est-ce qu'ils ont été, eux, les seuls dans la dispensation de l'innocence où Jésus, où Dieu venait pour parler avec eux? Donc il devait dire, mais tu te souviens? Tu te souviens? Alors, les gosses, qu'est-ce qu'ils devaient écouter? Ils devaient écouter. Moi, je pense qu'il y a, il a dû se passer des phénomènes comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Et peut-être qu'Abel disait, mais moi aussi, papa, il connaissait le Seigneur vraiment, même si c'est passé ce qui s'est passé. Et bien, moi aussi, je veux le connaître, le Seigneur. Moi aussi, je veux l'aimer. Caïn, lui, il s'est contenté de religiosité. Mais vous savez, ne leur jetons pas trop vite à la pierre, hein. Parce que croyez-moi que même parmi nous, il y a des gens qui sont superstitieux, qui sont dans la religiosité, qui viennent à l'église par superstition, qui lisent pas leur Bible. Hier, on a eu un sondage à la pastorale. Moi, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis, non? C'est... Je vous le dis. Mais c'est pour vous dire que ce que je vous dis est grave. 78% des pasteurs dans une dénomination, plusieurs dénominations, une, hein. Ils ont fait un sondage dans une dénomination. C'est pas vieux, hein. Moi, ça m'a fait peur. 78% des pasteurs dans cette dénomination ne lisent leur Bible que pour préparer des sermons. C'est pas 5%. 78%. Ah, moi, je dis, je comprends beaucoup, les églises vont mal. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de le dire? Je sais pas, je ne sais rien. Mais une chose est sûre, ça vous montre que même parmi les pasteurs, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne recherchent pas la communion avec Dieu. C'est évident. Comment voulez-vous qu'on n'en arrive pas à des aberrations, à ces paroles difficiles de Jésus qui dit « malheur à ces hommes qui ont suivi la voie de Caïn » parce que voilà, les gens ils s'imaginent qu'en faisant les choses comme ça, par habitude, ça va plaire à Dieu. Non, il y a des choses qui plaisent à Dieu, il y a cette graisse qui brûle des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, ne faites pas pareil aujourd'hui, c'est l'image de la prière qui est baignée, qui est bénie de Dieu. Je ne sais pas si vous aimez prier, peut-être que vous n'aimez pas prier. Mais croyez-moi, c'est important que vous aimiez la prière. L'offrande de Caïn n'avait pas d'autel, pas de graisse, pas de sang, rien qui puisse plaire au Seigneur. Voilà, ça veut dire aucune intimité avec Dieu. Et vous devez ce soir, parce que le but c'est pas d'encenser, excusez-moi le mot, mais d'encenser Abel et de critiquer Caïn, c'est de dire mais moi en fait où j'en suis de ma communion avec le Seigneur? Où j'en suis? Est-ce que vraiment cette foi elle se développe ou est-ce que vous faites partie de cette catégorie de chrétiens qui vraiment vont mal et qui dites toujours j'ai pas le temps, j'ai pas le temps? Quand vous allez passer devant Dieu, vous allez regretter sévèrement d'avoir dit cette parole. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Ça c'est vraiment une des ruses du diable les plus grosses. La foi d'Enoch, on continue un peu plus. La foi d'Abel, c'est le sacrifice de la foi.
La foi d'Enoch, c'est la marche de la foi. Qu'est-ce qu'il nous est dit d'Enoch? Alors, on le lit, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Cet homme, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 365 ans. Et Dieu l'a enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Dieu l'a pris. Dieu a pris des hommes pour nous montrer que l'enlèvement, ça va se... c'est rien pour Dieu. Alors, Enoch. Alors, le sacrifice de la foi pour Abel. Enoch, c'est la marche par la foi. Regardez l'histoire d'Enoch dans la Genèse. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Est-ce qu'il a fait des miracles, Enoch? Non. Est-ce qu'il a fait quelque chose de particulier? Non, rien. Cet homme, il a marché avec Dieu. Il a décidé de marcher avec Dieu. Quel encouragement! Et pourtant, c'était compliqué aussi à l'époque. Il a décidé de marcher avec le Seigneur. Voilà. Et ça a tellement plu à Dieu, mais que Dieu l'a enlevé. Mais c'est ce qui va arriver aux chrétiens. Vous voulez marcher avec Dieu? Vous voulez aller à l'église? Vous marchez avec Dieu? Quelqu'un me le disait dimanche. Ah ben moi, Monsieur Gau, parce que avant le culte, Monsieur Gau, moi je pense que tous les gens qui vont au culte, ils aiment Dieu. J'ai dit, mais moi, non, je ne suis pas sûr. C'est tous les gens qui obéissent à Dieu qui aiment Dieu, qui marchent avec le Seigneur. Il était agréable à Dieu. Vous avez lu avec moi, hein? Il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Tiens donc, est-ce qu'on peut savoir, par les textes bibliques, si ce que l'on fait est agréable à Dieu? Est-ce qu'on peut savoir? Alors, un texte, Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9. Vous devriez, en plus aujourd'hui avec les concordances, il n'y a rien de plus facile. Vous prenez des textes et vous tapez sur une concordance biblique agréable. Et vous avez tous les textes de la Bible où il nous est parlé d'être agréable. Par exemple, Jérémie, verset 23 du chapitre 9. Marcher avec Dieu. Une vraie foi, c'est une foi qui est agréable à Dieu. Marcher avec Dieu, c'est de dire, voilà, est-ce que ce que je vis, ça plaît à Dieu? Est-ce que ce que je dis, ça plaît à Dieu? Jérémie 9, 23. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voilà, j'ai pris ce texte, comment j'aurais pu en prendre d'autres? Parce qu'il y en a d'autres. Quand Dieu va reparler justement à Saül. Vous rappelez quand Saül a offert des sacrifices, il a tué tout le peuple, sauf le roi, et Dieu va lui dire, mais tu crois que Dieu trouve du plaisir dans les sacrifices comme dans l'obéissance? C'est pour ça que c'est pas parce qu'on fait quelque chose pour Dieu que ça plaît à Dieu. Vous voyez, moi je prêche, je prends souvent l'exemple. Est-ce que je suis agréable à Dieu parce que je prêche? Sérieusement. Mais si vous appreniez que je vis dans le péché, si vous appreniez que je mens, que je suis un mauvais mari, que j'ai été un mauvais père, si vous appreniez, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Eh bien non. Si vous appreniez que je m'applique à prêcher et qu'après que j'emploie des mots grossiers, qu'est-ce que vous diriez? B. Qu'est-ce que vous diriez? Voilà que je suis un hypocrite. Hein. Et ça, ce n'est pas le genre de foi qui est agréable à Dieu. Mais on le voit, ça. On le voit. Et il y a des choses qui sont agréables à Dieu. La Bible nous exhorte, Éphésiens 5, 10, à rechercher ce qui est agréable au Seigneur. On l'a vu dernièrement dans les Actes 10, 35. Celui qui pratique la justice et celui qui le craint, lui est agréable. On n'aurait pas pu passer toute la soirée. On va lire notre texte, 1 Timothée 2, 1 à 3. C'est important ça, il a été agréable à Dieu. Je vous pose vraiment la question, est-ce que vous voulez être agréable à Dieu? Vous voyez bien que ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est agréable à Dieu. Il y a des gens qui mentent, c'est impressionnant. Moi quand on me dit qu'un chrétien a menti, mais je n'arrive pas à le croire. Ah, ben vous savez, c'est comme ça. Eh bien, croyez-moi que ce n'est pas comme ça qu'on va être agréable à Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 3. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous venions une vie paisible et tranquille. Vous voyez, mes frères et sœurs, la vie en France, elle est ce qu'elle est, mais croyez-moi que si tous les chrétiens priaient pour les autorités du pays, et on doit prier, vous avez vu ? Alors, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Pourquoi il y a des chrétiens qui sont malheureux ? Mais parce qu'ils critiquent, ils salissent. Et celui-là, c'est un imbécile. Et vous comprenez bien que je ne vais pas utiliser des mots vulgaires. Mais quand on entend la façon dont certains chrétiens parlent, ils ne peuvent pas s'identifier à Enoch qui a marché d'une manière agréable. Quelqu'un qui est agréable à Dieu, c'est quelqu'un qui, tous les jours, puisque c'est demandé avant toute chose, on devrait prier, Seigneur, tu bénis les autorités de Toulouse, tu bénis les autorités de Saint-Orens, tu bénis les autorités de Paris, tu vois le président de la République, le Premier ministre, eh bien, je te les apporte, je les amène au trône de la grâce. Eh bien, c'est agréable à Dieu. Vous l'aviez lu déjà, ça ? Moi, j'ai vu des chrétiens qui... Non, mais je le répète, parce qu'il faut le dire. Comment voulez-vous que ces gens soient prêts quand Jésus va revenir ? Il faut respecter les autorités. Un chrétien me disait normalement, est-ce qu'on peut travailler au noir ? Mais je dis, ben non, un chrétien qui remplit un esprit ne travaille pas au noir. Il déclare ce qu'il fait. Oui ou non ? Vous savez cette histoire-là ? Enoch, il a marché avec Dieu pendant 365 ans. Pourtant, je vous rappelle, vous lirez le contexte, vous allez voir. Et Dieu l'a enlevé. Qu'on le veuille ou non, c'est l'image des chrétiens de la fin des temps qui, s'ils sont agréables à Dieu, ils seront enlevés. Mais ne nous mettons pas en tête que Dieu va nous enlever si on n'est pas agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Je lis dans ta parole, on le sait. Franchement, est-ce que Dieu nous a pas donné à tous un cerveau pour lire la parole de Dieu ? Est-ce que franchement, on ne le sait pas ? Oui ou non ? Mes frères et sœurs, c'est pas compliqué d'être chrétien. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas lire la Bible avec son cœur. Mais quand on lit la Bible, on sait comment on peut être agréable. Le troisième cas, parce que je vois que l'heure tourne. Mais c'est un sujet, on aurait pu prendre... J'ai hésité d'ailleurs. J'ai failli parler que sur Enoch et prendre tous les textes qui sont agréables à Dieu. Mais ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Des fois, des chrétiens me disent, oh, mais je ne sais pas quoi lire dans la Bible. Bon, je crois que c'est inépuisable, sérieusement. Agréable à Dieu, vous tapez ce texte, vous allez voir qu'il y a de quoi faire quelques cultes personnels, croyez-moi. Et là, vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour vous... C'est pas vrai, à moins qu'il y ait des textes un peu compliqués, mais enfin quand même. Noé. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit de Noé ? Qu'est-ce qu'il a fait Noé ? Je vais faire toute une étude sur Noé prochainement. Parce que Noé, la terre était remplie de violence. La méchanceté était grande sur la terre et le verdict est terrible, il en sera de même. Il y a des gens qui prient, Seigneur, qu'il y ait moins de violence, que les choses s'arrangent, que les gens y soient gentils. Laissez-moi vous dire que c'est bon, c'est bien de prier comme ça, mais ça, les gens ne feront pas en devenant gentils. Quand on rejette Dieu, on ne devient pas gentil. Plus on rejette Dieu, plus on devient méchant. Plus on rejette Dieu, plus on devient pervers. Et laissez-moi vous dire que Noé, il avait choisi de marcher avec Dieu. Ça a tellement plu à Dieu que Dieu l'a utilisé pour bâtir une arche, pour sauver sa famille. C'est pour ça que j'ai proposé dimanche que le 16 novembre, on ait un moment de jeûne et prière pour toutes nos familles, pour nos enfants, parce que Dieu veut les bénir, nos familles. Et Noé, il a eu cette... Vous avez vu ? Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Vous voyez, il avait la crainte. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui a la crainte ? Eh bien, quand il entend quelque chose, imaginez quelqu'un, ce soir, quelqu'un travaille au noir. Quelqu'un ne déclare pas son travail. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu dit, oh, mais c'était pour moi, j'ai intérêt à me tenir à carreau, eh bien, je vais tout mettre en règle. Mais voilà, c'est ça la crainte de Dieu. C'est ça. Vous n'aviez pas la crainte de Dieu, ou alors vous étiez vulgaire, ou alors vous priez pas pour les autorités, vous dites, moi, monsieur Hollande, c'est pas ma tasse de thé. Moi non plus. Mais je peux vous dire que je prie tous les jours pour lui. Parce que, vous l'avez lu comme moi, avant toute chose, il faut le faire. Ah, vous pouvez discuter, oui, mais ça a été écrit par l'apôtre Paul, est-ce que vraiment c'est inspiré? Écoutez, tout ce qui est dans la Bible, ça vient de Dieu. Et je crois que c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait véritablement des progrès. Noé, c'est la foi qui obéit. Abel, le sacrifice de la foi. Enoch, la marche de la foi. Et Noé, c'est la foi qui obéit. Une foi qui n'obéit pas et n'est que de la croyance superficielle. Vous lirez dans le Genèse au chapitre 6, parce que l'heure retourne, vous lirez, lui aussi, il avait décidé de marcher avec Dieu, et chaque fois que Dieu lui a demandé quelque chose, il l'a fait. Vous lirez, c'est écrit plusieurs fois, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Voilà à quoi on reconnaît quelqu'un qui a une véritable foi. Ce soir, moi je suis sûr à 100% que Dieu peut nous avoir montré quelque chose. À quoi reconnaîtrez-vous que vous avez une véritable foi et que vous dites, et vous allez dire, mais ça c'est pour moi. Mais c'est pour moi. J'en ai besoin. Il faut que je mette ma vie en règle. Moi je me réjouis parce qu'en un mois, j'ai jamais vu autant de gens qui dans l'église, des nouveaux bien sûr, heureusement, m'ont dit, il faut qu'on mette notre vie en règle. Mais moi ça me réjouit parce que ça prouve que les gens sont sérieux. La foi qui est agréable à Dieu, c'est une foi qui obéit. C'est pas cette foi dans l'évangile de postérité, mais demande tout ce que tu demandes à Dieu, tu l'auras. C'est pas ça la foi. Ça c'est ridicule, il faut dire les choses comme elles sont. Noé, il marchait avec Dieu dans son temps. C'est écrit, Genèse 6, verset 9. Il avait décidé de marcher avec Dieu. Pourtant Noé, quand il allait à la réunion de prière, ils étaient nombreux à la prière, d'après vous? Moi, je crois qu'ils priaient tout seuls. Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez dans une église ou à la réunion de prière, vous êtes tout seul? Imaginez-vous, vous allez à la réunion, ici on est 400, bon des fois on n'est pas nombreux. Est-ce que vous continueriez à venir si vous étiez seul? Moi, je me suis posé la question plusieurs fois. Je ne veux pas dire ce que je vais vous dire la réponse. Mais franchement, est-ce que vous continueriez à prier si toute votre famille abandonnait Dieu? Est-ce que c'est des vraies questions? C'est sérieux, quand même. Noé, il était tout seul. Et il marchait avec Dieu. Et pourtant, les gens priaient. Vous lirez, moi le verset, on va le lire, ce verset. Mais c'est pour vous montrer comment c'est important de lire la Bible avec ce cœur ouvert. Regardez, Genèse chapitre 4, verset 26, du chapitre 4. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enos. C'est alors, regardez bien, c'est écrit, ça aurait pu ne pas être écrit. Mais regardez, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ah, c'est formidable. Tout le monde se met à prier. À quoi ça leur a servi, dites-moi? Quand on voit combien de personnes étaient dans l'arche, à quoi ça leur a servi de prier? À rien. Pourquoi? Mais parce qu'ils obéissaient pas. C'est bien de prier. Oui, c'est écrit. Vous le voyez comme moi, non? C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. On pourrait se dire, bon, l'arche, ça va marcher, il va y avoir du monde. Les gens prient, les gens invoquent Dieu. Non, ça ne sert à rien de prier si on ne veut pas obéir. Et Noé, ben, peut-être plus qu'on est là-dedans, Noé 6, verset 9, vous voyez, la fin du verset 9, Noé marchait avec Dieu. Il avait décidé. C'était quelque chose de carré. Là, oh, mais avec tout ce qu'on voit, mais qu'est-ce que vous voulez être chrétien? Vous n'avez pas vu la violence? Eh bien, les gens qui parlent comme ça, laissez-moi vous dire qu'ils ne vont pas demeurer longtemps dans la foi parce que ça va s'aggraver. Vous allez me dire, mais monsieur Hugo, vous n'êtes pas encourageant. Hein? Est-ce que c'est prophétisé? Ça fait mal au cœur. Mais les gens, voyez ce qui se passe dans le Tarn, alors, c'est pas loin. Et nous sommes dans une société, on va être entraîné. Le monde, parce que les chrétiens sont gardés. Et ces textes, ils sont là, c'est pas à prendre à la légère. Il y a un sacrifice, il y a une communion avec Dieu par rapport au sacrifice de Jésus-Christ. Il y a le choix de marcher comme Enoch. Voilà, je marche avec Dieu. Il a marché 365 ans. C'est bien. C'est bien quand même, non? Moi, je ne sais pas si vous vivrez 365 ans, mais imaginons que vous viviez encore quelques années de plus, ça ne vaut pas la peine. Jusqu'à la fin, je marcherai avec Dieu. Point. Je chercherai à savoir ce qui est agréable à Dieu. Un vrai chrétien, c'est ça. Ce n'est pas un chrétien pentecôtiste, un bon chrétien, ce n'est pas un pasteur qui prêche bien, tout ça, c'est du cinéma. Un bon chrétien, c'est quelqu'un, il sait ce qui est agréable à Dieu et il le fait. Un bon chrétien, la terre est remplie de violence, ça va être pire, de pire en pire, vous le savez. Ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Ça sera exactement pareil. Vous le savez. Et bien Noé, il avait marché avec Dieu. Dieu a dit quelque chose. Eh bien, je le fais. Ce soir, Seigneur, tu me montres quelque chose au travers de ton serviteur. Tu me montres qu'il y a des trucs qui ne vont pas, que je suis un hypocrite, que je vais à l'église. Alléluia, alléluia. Je suis capable de chanter, de pleurer, même de temps en temps s'il le faut, parce que je crois qu'en étant sensible, c'est pas la sensibilité, ça, c'est la sensiblerie. En étant sensible, ça doit plaire au Seigneur. Le Seigneur, il n'en a rien à faire de ces larmes-là. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est une obéissance. Noé, c'est le style de la foi qui obéit. Une foi, c'est une vraie foi, c'est une foi qui obéit. Noé, il avait décidé de marcher avec Dieu. Ce soir, vous êtes venus dans la maison du Seigneur. Voilà, je vous ai dit ces choses, on pourrait faire tout le chapitre 11. On finit le chapitre 11 ? On le finit ? Mais je crois que ça vaut la peine de le faire. On pourrait le faire, non ? Parce que quand même, ça a été écrit pour notre instruction. Faites-le de votre côté. Moi, je vais le faire du mien. On le reprendra peut-être ensemble. Mais ça vaut la peine de voir tous les caractères de la foi. Combien Dieu a été méticuleux, soigné pour nous enseigner ces choses. Et quelqu'un qui cherche, il trouve. Moi, des fois, il dit, oh, j'ai cherché Dieu, je ne l'ai pas trouvé. Alors, je dis, combien de temps vous l'avez cherché? Oh, ben, 5 minutes. Ah, d'accord. Hein. Vous avez vu, vous, quelqu'un qui a cherché Dieu et qui ne l'a pas trouvé? Il n'y en a qu'un qui l'a cherché et qui ne l'a pas trouvé. C'est Hérode qui cherchait Dieu, qui cherchait Jésus pour le tuer. Là, ça se comprend un peu qu'il ne l'ait pas trouvé. Mais tous les autres qui ont cherché Jésus, qui ont vraiment cherché le Seigneur, ils l'ont trouvé. Il y a quelqu'un ici qui peut dire, moi j'ai cherché le Seigneur et je ne l'ai pas trouvé? Qui est vraiment cherché? Et tous ces textes, c'est pour nous aider à améliorer notre communion. Frères et sœurs, améliorez votre communion. Soyez sérieux. Vous croyez que Jésus va bientôt revenir? Vous le croyez vraiment? Et vous vous rendez compte de ce qu'on entend, ce sont des choses simples que vous avez déjà peut-être entendues, mais ça vaut le coup de dire, mais moi je vais chercher, je vais m'arrêter, je vais marquer dans mes notes ce qui est agréable à Dieu. Faites-le, vous allez voir le plaisir que vous allez avoir d'obéir à Dieu. Oui, il était agréable à Dieu. On peut marcher avec Dieu toute la vie. On peut lui être agréable. Le résultat, c'est qu'il nous prendra. Et le résultat pour ceux qui ne sont pas agréables à Dieu, c'est que Dieu ne les prendra pas. Voilà, vous allez me dire, monsieur, vous êtes. Des fois, vous êtes un peu sévère. Je ne suis pas sévère. Si on ne dit pas les choses comme ça, tout le monde pense que tout le monde va bien s'en sortir, que tout le monde, ça va bien se passer pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ça se passera mal pour beaucoup de chrétiens parce qu'ils n'auront pas été sérieux avec le Seigneur. Et moi, je ne veux pas que Dieu me fasse ce reproche un jour. Voilà, on pourrait se lever et terminer en priant. C'est important. J'aimerais qu'on dise, Seigneur, mais tu vois. Ce soir, j'ai compris, il n'y a pas de communion sans sacrifice, il n'y a pas de communion sans une vie agréable, il n'y a pas de communion sans une obéissance. Voilà, ce sont des choses importantes. Voilà, on va demander au Seigneur de nous diriger. Vous connaissez les horaires des réunions, les prochaines réunions ?